Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Ludovic Pio fait grosso modo le même métier que moi. Il est architecte cloud et aide les entreprises dans leur transformation DevOps. Mais il partage aussi beaucoup en conférences. Vous trouverez pléthore de conférences de lui sur YouTube. Je vous mets un petit lien en description. Vous verrez, il y a plein de conférences que vous pourrez aller voir. On va parler tous les deux de l'administrateur système DevOps, entre autres, donc restez bien jusqu'à la fin.
Bienvenue sur Radio DevOps, la balado-diffusion des compagnons du DevOps. Si c'est la première fois que tu nous écoutes, abonne-toi pour ne pas rater les futurs épisodes. C'est parti !
Bonjour à toi, cher compagnon, et bienvenue dans ce nouvel épisode d'En Aparté, l'émission où je m'entretiens avec un invité. Avant de commencer, je te rappelle que j'ai créé une communauté en ligne francophone dédiée au DevOps, et justement, l'invité du jour fait partie des compagnons du DevOps. Tu peux nous rejoindre pour discuter avec nous, c'est le premier lien en description pour t'inscrire. Bonjour Ludovic.
Salut.
Bienvenue dans le podcast. Est-ce que tu peux justement te présenter en quelques mots pour les auditeurs et auditrices qui ne te connaîtraient pas, nous dire ce que tu fais un petit peu dans la vie ?
Ouais, d'abord, merci beaucoup de m'inviter. En fait, assez bizarrement, c'est mon premier podcast. Et alors que j'écoute des podcasts depuis super longtemps, c'est mon premier podcast, donc je suis très très honoré déjà, et puis je suis très touché de faire ce premier podcast. J'ai envie d'en faire depuis des années. Alors, qui je suis ? Je suis Ludovic Pio, et en fait, on va passer assez vite, je pense, à la suite, parce que je pense que dans la suite, je vais vous raconter un petit peu mon histoire. Rapidement, en fait, moi, à la base, je suis biologiste marin, donc je m'occupe des orques et des dauphins, essentiellement. Et à un moment donné, en fait, l'Internet est arrivé en France, et donc j'ai sauté dans cette activité-là, parce que les orques et les dauphins, finalement, en région parisienne, il y en avait assez peu. Donc il y avait des débouchés professionnels assez limités. Et puis, comme l'informatique était quand même une grande passion pour moi, et que finalement... Enfin, je suis né avec l'informatique. Hein. Apple a été créé à l'époque où j'ai appris à lire. L'internet est arrivé grosso modo quand j'ai eu mon bac. Enfin voilà quoi. C'est vraiment l'histoire de l'informatique est connexe à ma propre histoire. Et donc en fait assez naturellement j'ai versé dans l'informatique quand j'avais une vingtaine d'années. Et donc, je fais du DevOps depuis très longtemps.
Du coup, on a grosso modo le même âge peut-être alors.
J'ai 47 ans.
Ouais, tout petit peu plus vieux que moi, mais pas beaucoup.
Voilà.
Ah, d'accord. Donc, en fait, t'es tombé dans l'informatique un peu plus tard que moi, du coup. Moi, je suis tombé vraiment quand j'étais ado, en fait.
Ah, mais attends, moi, ma première machine, c'était alors, ça s'appelait Videopac. Il y avait un autre nom qui était Odyssey 2. Sur lequel on codait en assembleur. J'ai fait une partie il y a quelques jours avec ma fille. C'est vraiment les trucs avec les gros pixels, quoi. Mais vraiment, c'est avant le 8 bits, quoi. Enfin, avant les ordinateurs 8 bits qu'on a connus. C'était du 8 bits, hein, bien sûr. Mais c'est avant les ordinateurs 8 bits qu'on a connus. C'était un truc à cartouche. Et franchement, j'ai eu ça. Je devais avoir, peut-être 6-7 ans, quoi.
Ah oui, quand même. D'ailleurs, si je me trompe pas, il y a un Macintosh derrière toi.
Alors derrière moi il y a un Macintosh Plus et en fait il y a 42 machines derrière, dont un Macintosh Plus et un Next qui vient du CERN s'il vous plaît.
Oh, sans déconner. Bon peut-être qu'un jour je verrai ça. Eh ben écoute, merci. Je vais te poser les questions rituelles que je pose à tous mes invités. La première c'est, et c'est la plus importante selon moi, c'est quelle est ta définition du DevOps ?
Alors pour moi le DevOps c'est d'abord un objectif. Et c'est une démarche. Et en fait, cet objectif, on le recherche à travers une démarche. L'objectif, quelque part, c'est revenir à du pragmatisme, revenir à de la réalité. Et c'est surtout, enfin, pour le dire concrètement, c'est aligner l'ensemble des acteurs et des compétences du système d'information sur la seule chose qui vaille, qui est la qualité du produit restitué à l'utilisateur. Et ça, pour moi, c'est l'objectif principal du DevOps. Et pour y arriver, il y a une démarche, et cette démarche, elle consiste On pourrait la résumer en une ligne, c'est arrêter avec les processus Shadok. Pour le dire de façon un petit peu plus je dirais corporate friendly, ça veut dire engager l'ensemble des acteurs sur une chaîne, sur la chaîne de production de valeur. Donc déjà, il y a une question d'engagement, c'est-à-dire vraiment avoir un alignement de ces acteurs sur cette sur la chaîne de production de valeur, leur rappeler quelque part en fait avoir une démarche d'animation de cette équipe, enfin de ces acteurs sur le fait qu'ils se sont engagés à fournir un produit de qualité. Et ça doit passer par un certain nombre de facilitants. Et ces facilitants, c'est d'abord une collaboration libre et sans contrainte. Et je vais revenir dessus quand on va parler d'automatisation, parce que évidemment l'automatisation est un des vecteurs. Mais pour moi, le premier truc, c'est la collaboration libre et sans contrainte. Et le souci de l'amélioration continue, ça c'est vraiment dans l'état d'esprit. Dans les facilitants, il y a aussi la question du partage d'informations en temps réel. Et donc, c'est-à-dire on fait pas un email et on attend 2 jours pour avoir l'info. En fait, c'est l'info. Quand quelqu'un la génère, cette info, elle est immédiatement restituée à l'ensemble des acteurs de la chaîne de valeur. Donc, un partage de l'information et bien entendu le partage de responsabilité qui va avec ce partage d'information. Ça, c'est souvent évité ou c'est souvent mis sous le tapis ou c'est souvent retardé dans l'arrivée lorsqu'on fait une transfo. et puis c'est évidemment le partage d'outils et de méthodes communes. C'est-à-dire, on n'a pas l'outil de collaboration de l'équipe A et l'outil de collaboration de l'équipe B, et ces deux outils n'ont rien à voir l'un avec l'autre, parce qu'on collabore beaucoup moins bien avec chacun son outil quand même. et puis c'est l'automatisation. Mais pour moi, l'automatisation, très souvent, quand on aborde l'automatisation en DevOps, on oublie un truc, c'est que l'automatisation, son premier rôle, c'est d'étendre au maximum l'autonomie des différents acteurs en dehors de leur propre champ de compétences. C'est-à-dire que l'automatisation, elle est là pour remplacer l'expert à qui on aurait demandé de faire quelque chose. Et donc, en fait, l'automatisation, on peut l'utiliser en self-service. Pour moi, l'automatisation, elle n'est intéressante que si elle est consommée en self-service. Voilà. Et pour moi, le DevOps, c'est ça. C'est-à-dire cet alignement de l'ensemble des équipes autour de ce terrain de jeu commun.
Bah, sacrée définition, hein. J'espère que c'est pas ça que tu sers à tes clients, parce que c'est un peu long du coup.
Alors c'est un peu long, mais finalement ça tire assez bien. Mais j'ai pas l'habitude d'être très court de toute façon.
Non, mais la phrase que t'as dit au début en plus se rapproche assez bien de la mienne. Et du coup, en fait, le DevOps, tu l'as rencontré comment? En fait, à quel moment dans ta vie? Et surtout, qu'est-ce que ça a changé dans ta vie, en fait? Parce que moi, je sais que ça a eu un gros impact dans ma vie quand je me suis rendu compte de ce mouvement-là.
Alors, je vais avoir une réponse longue et en deux temps. Parce qu'en fait, le DevOps, je l'ai rencontré en deux étapes. Enfin, je l'ai rencontré en deux temps. Le truc, c'est que moi, donc, comme je vous l'ai dit, hein, je suis un autodidacte pur en informatique. C'est-à-dire que je crois que j'ai eu 4 heures de Pascal dans tout mon cursus. Dans tout mon cursus étudiant, universitaire, etc. Et c'est en tout et pour tout ce que l'intégralité de mon cursus informatique lors de mes études. Donc, je suis un pur autodidacte. Et donc, ma carrière, ça a commencé par du poste de travail, donc aller brancher des câbles, enfin ce genre de trucs, des souris, etc. C'était sur du Macintosh, d'ailleurs. ensuite, j'ai fait de l'exploitation, donc vraiment le pupitreur, qui vient sur son Gecos, qui a même pas d'écran, en fait. C'était le clavier, et puis c'était une restitution caractère après caractère sur une imprimante matricielle. J'ai fait aussi l'exploitant sur des espèces de gros photocopieurs à base de Sun Solaris. Et puis, de fil en aiguille, en fait, j'ai fait un petit peu de dev. Alors d'abord du dev de gestion, puis ensuite j'ai fait du dev système, du dev d'outils système. En particulier, j'ai fait un espèce d'outil de déploiement pair à pair avant qu'on ait des histoires de peer-to-peer un peu standardisées, quoi. Et puis j'ai fait de l'admin. Alors, à peu près de l'admin de tout ce qui existe, hein, c'est-à-dire de l'admin aussi bien Exchange, Windows, Linux, Solaris, AIX, base de données, Oracle, PostgreSQL, SQL Server, enfin la totale, Sybase. Et puis, en fait, à partir de 2003, avec ces différentes casquettes, finalement, j'étais un espèce d'acteur un petit peu particulier, une espèce de mouton à 5 pattes. Et donc, en fait, les projets sur lesquels je suis passé, j'étais un petit peu cette espèce de, de nœuds intermédiaires qui savaient parler aux développeurs, qui comprenaient leurs exigences, leurs enjeux, etc., mais qui comprenaient aussi les enjeux de la production, puisque j'avais fait du 24/7, j'avais fait de l'exploitation au sens strict du terme, quoi, suivre un ordonnanceur de prod, ce genre de truc, être réveillé la nuit. Et donc, en fait, j'étais un petit peu à la croisée de tous les chemins, ce qui fait que quand il y avait... À l'époque, je bossais chez Accenture, et quand il y avait un blème entre le plateau projet accenturien et l'ensemble des acteurs du client, c'est moi qu'on envoyait parce que globalement, en fait, je savais parler à l'ensemble des gens et j'avais finalement le relationnel et la compréhension, j'allais dire l'empathie, mais c'est pas une question d'empathie, c'est une question de culture, en fait. J'avais cette compréhension de quelle était la réalité de mon interlocuteur, et donc à partir de là, je savais ce qui lui posait problème. Très souvent, quand on a un interlocuteur, il ne sait pas oraliser, il ne sait pas verbaliser ce qui lui pose problème, ses craintes. Et la plupart du temps, en fait, il faut aller le débusquer, cet élément-là. Et pour le débusquer, quelque part, il faut comprendre sa réalité. Et donc, moi, comme j'avais fait des années de vie ma vie auparavant, j'ai commencé ma carrière en 98. Et j'ai commencé donc cette espèce de rôle un petit peu d'intermédiaire, de médiateur en 2003-2004. Et donc, en fait, voilà, pendant 5 ans, finalement, j'avais eu suffisamment d'expérience terrain dans les différents postes pour avoir fait suffisamment de vie ma vie pour comprendre ces acteurs-là. Et donc, ça a été ma première approche du DevOps, finalement, puisque c'était globalement, c'était ça, en fait. C'était rapprocher les devs, les ops, les admins, les exploitants, les architectes, etc., etc., les chefs de projet. Donc, c'était déjà un petit peu du DevOps avant l'heure. Et en particulier, à cette époque-là, j'ai commencé à faire de l'infrastructure sur des serveurs LAM en Windows. Alors, il y avait un outil qui s'appelait Altiris RDP. Évidemment, hein, qu'on soit bien clair, je ne savais pas que c'était du DevOps, parce que le mot n'existait pas. Mais déjà à cette époque-là, j'ai commencé à faire de l'infra as code, donc sur des serveurs LAM HP, avec un outil de déploiement donc headless qui s'appelait Altiris RDP, qui détectait les événements du type je rate une LAM, je sors une LAM, ma LAM elle est déjà installée, ma LAM elle n'est pas installée, ce genre de truc. Et donc en fait derrière on pouvait trigger d'orchestration, d'automatisation, etc. Ce qui fait que je me suis amusé comme un petit fou à faire de l'infra as code. Enfin, voilà, dès cette époque-là, c'était en 2003, quoi. Donc ça, c'est ma première rencontre avec le DevOps. Mais quelque part, j'étais Monsieur Jourdain, quoi. J'étais quelqu'un qui faisait sans savoir. Et surtout, je me sentais bien seul. Parce que, évidemment, je rentrais dans aucune case. Et surtout, je bossais à l'époque pour Accenture, qui avait une vision très, très ittilienne des rôles et compétences des acteurs sur un projet informatique. Et donc, je me sentais vraiment hyper seul. Donc, ça m'amène à la deuxième partie de la réponse qui est, j'ai rencontré le DevOps bah, au moment où ça a émergé. C'est-à-dire, en fait, moi, j'ai eu une formation avec Martin Fowler. Donc, je suis un pur Martin Fowler disciple. Et donc, bah, c'était aux alentours de 2010 où vraiment, là, pour le coup, j'ai rencontré vraiment le terme de DevOps et où surtout, j'ai fait partie d'une tribu, à l'époque, j'étais chez Octo, d'une tribu qui était la tribu des DevOps. Et là, pour le coup, bah, qu'est-ce que ça a changé? Bah, déjà, ça a changé que bah, j'avais l'impression d'avoir des pairs, j'avais l'impression de faire partie d'une communauté qui existait. Et puis surtout, j'avais l'impression que mon travail était valorisé. C'est-à-dire que jusque-là, j'étais un espèce de, comment dire, un espèce de couteau suisse, le mec qui vient fixer, mais un type un petit peu, comment dire, le type un peu débrouillard, quoi, l'espèce de MacGyver du projet informatique. Et puis d'un seul coup, en fait, je me suis rendu compte que c'était un poste, que c'était un rôle, que c'était une activité qui était pleinement reconnue, voilà, qui avait sa propre communauté, sa propre culture, son propre outillage aussi. Et son propre salaire aussi, parce que là, pour le coup, j'étais plus rémunéré comme un espèce de sysadmin mal gaulé, quoi. Mais voilà, j'étais un DevOps au sens strict du terme. Donc, ce que ça a changé, c'est que, bah, enfin, j'ai pu savoir dans les chaussures de qui je marchais, quoi, quelque part. Donc voilà ce que ça a apporté. Et encore une fois, bah voilà. Donc en fait, je fais du DevOps souvent quand je fais une conférence. Je me présente en disant que je fais du DevOps depuis 2003. Le terme a été inventé en 2007, ce qui fait que je suis un DevOps vieux. Voilà, c'est un peu ça que j'ai ressenti quand j'ai rencontré le DevOps, c'est que ce côté, comment dire, ce côté vraiment, il y a une réalité, il y a un univers dont je fais partie, auquel je fais allégeance et qui est mon univers. Voilà, c'est ça le truc que ça a changé dans ma vie.
Bon, je sais qu'on n'a pas la même vision sur le poste et le métier. On ne va pas troller dans ce podcast-là. Par contre...
Bah, je pense qu'on l'abordera un peu plus tard quand on va parler de l'administration.
Ouais, on va parler de ça. Et du coup, tout ce que tu as dit, ça m'a amené une question supplémentaire dont tu n'es pas au courant. Est-ce que tu penses finalement, parce que tous les deux, on fait du conseil aussi en transition DevOps, est-ce que tu penses qu'on peut dignement conseiller les entreprises à faire une transition DevOps si on n'a pas justement fait tous les métiers du cycle de vie d'une application? Parce que comme toi, moi j'étais développeur, puis exploitant, j'ai fait aussi la prod, puis admin 6. Et du coup, est-ce qu'on peut vraiment les conseiller si on n'a pas fait tous ces métiers-là et si on ne s'est pas rendu compte de tous les tenants et aboutissants de ces métiers-là?
En fait, quand je fais une presse d'acculturation du DevOps, c'est une super question, en fait. Merci. Franchement, c'est une super question. Quand je fais une présentation d'acculturation sur le DevOps, très souvent, j'ai un slide qui dit « Le DevOps, en fait, c'est pas une destination, c'est un chemin. » Et je pense que là-dessus, on se rejoint, Christophe. C'est-à-dire qu'en fait, la démarche, finalement, est... Évidemment, il ne faut pas perdre de vue l'objectif, mais l'objectif, on sait que la plupart du temps, on l'atteint jamais à 100%, en particulier quand on embarque une entreprise, un gros paquebot dans une transfo DevOps. C'est quand même assez rare de se dire, enfin, c'est assez rare de quitter ce chantier de transformation quand le paquebot, ça y est, il s'est transformé en Zodiac, quoi. En fait, le paquebot se transforme jamais en Zodiac. Et donc, en fait, jamais on aura un modèle DevOps comme on sait le voir dans des startups, par exemple, ou dans des équipes très agiles et très, très orientées, modèle DevOps agile, quoi, on va dire. Donc, on sait que les entreprises, les grosses entreprises, vont jamais transitionner à 100%. Néanmoins, pour moi, la question, c'est vraiment la question du chemin. Et pour donc répondre à ta question, qui était, je vous le rappelle, chers auditeurs, est-ce qu'on peut légitimement accompagner dans une transfo DevOps sans avoir la légitimité d'avoir fait tous ces postes? Je pense qu'en fait, comme dans toutes les choses, enfin comme dans tous les facilitateurs, comme dans tous les enablers d'une transfo DevOps, connaître cette réalité par soi-même, c'est évidemment un plus énorme, quoi. Moi, je me souviens d'une époque où, quand je faisais de l'exploitation, j'avais une chaîne de batch quotidienne qui tournait en 36 heures. Je vous le refais, hein, une chaîne de batch qui tournait tous les jours et qui tournait en 36 heures. Autrement dit, en fait, on avait 12 heures de recouvrement entre la chaîne de la veille et la chaîne du jour. Donc, autant vous dire que quand il y avait une couille, c'était vraiment, vraiment un problème. Et donc, je me souviens que toutes les nuits, quand je me levais pour aller aux toilettes ou ce genre de truc, enfin, quand je me réveillais la nuit, voilà, pour essentiellement pour aller aux toilettes, hein, parce que la nuit, voilà, on se réveille pas pour grand-chose d'autre. j'avais un PC qui était allumé sur le chemin entre mon lit et les toilettes, et je regardais la chaîne pour voir la chaîne de production, pour voir s'il n'y avait pas une couille en dehors des pagers, etc. Mais en plus des pagers, j'avais un œil proactif sur cette chaîne. Donc, je sais ce que c'est que ce stress-là. En fait. Mais on n'est pas forcément... enfin. Pour moi, en fait, un des sujets principaux dans le DevOps, c'est d'abord d'être en empathie avec son interlocuteur. Qu'on soit le dev, qu'on soit l'ops, qu'on soit un rôle DevOps intermédiaire, qu'on soit un agiliste, peu importe en fait, peu importe son rôle et son activité au sein de l'entreprise, l'important dans la culture DevOps, c'est avant tout de se mettre dans les pompes de son interlocuteur, de comprendre sa réalité, de comprendre ses exigences, de comprendre éventuellement ses craintes sous-jacentes et inexprimées. Et pour ça, en fait, évidemment, c'est plus facile, en tout cas pour moi qui suis un peu sociopathe sur les bords, c'est plus facile d'avoir vécu ces vies-là. Mais par contre, il y a des gens qui sont d'un naturel empathique à la base et qui savent faire ça sans avoir besoin, enfin, qui savent détecter les signaux faibles. Moi, je ne sais détecter les signaux faibles que parce que je les ai vécus et donc, en fait, je sais les redétecter par comparaison de pattern, quoi, quelque part. Donc, je pense que c'est un facilitateur, mais je suis absolument convaincu, et d'ailleurs, je le vois d'expérience quand j'ai des acteurs autour de moi, il y a des gens, en particulier, par exemple, en ce moment, je travaille avec une jeune femme et elle a cette empathie naturelle qui fait que, bon, elle, c'est une pure DevOps. Alors voilà, ton poil se hérisse, je le vois bien. Je vois bien que ton poil se hérisse, Christophe. Bon, elle est en train de travailler sur une toolchain de CI/CD et donc elle est la DevOps de la bande, la DevOps engineer de la bande, et elle a cette empathie naturelle pour ses interlocuteurs, que ce soit des interlocuteurs de prod ou des interlocuteurs de dev. Donc voilà, pour répondre de façon courte à ta question, ouais, je pense que c'est un facilitateur non négligeable. Par contre, très clairement, c'est pas indispensable.
Faut quand même avoir une petite expérience, mine de rien. Enfin, je veux dire, tu sors pas d'école d'ingénieur et tu fais pas ça tout de suite, quoi. Non ?
Non, bah c'est clair. En fait, non, parce qu'en fait, il faut avoir quand même suffisamment éprouvé la réalité du terrain. Ça, pour le coup, là, je suis d'accord avec toi. Il y a une réalité du terrain. Tu peux l'avoir vécu qu'en tant que dev, avec des ops en face, et donc avoir connu la douleur de l'incompréhension de l'équipe d'en face ou de ta propre incompréhension des exigences de l'équipe d'en face. Donc ça, effectivement, il faut avoir un petit peu de bouteille pour prétendre à mener ces transformations. De toute façon, il y a aussi la réalité du terrain et du marché, c'est-à-dire qu'on ne va pas te prendre pour mener une transfo DevOps d'une grosse entreprise, parce que la plupart du temps, les transfo DevOps, ça ne se fait pas avec des équipes qui tiennent dans un garage. Hein. Donc on ne va pas te prendre pour mener ces transformations si tu n'as pas un peu de bouteille et si tu n'as pas aligné quelques galons et si tu n'as pas quelques trophées à présenter. Quoi. Donc,
oui, c'est vrai que tu fais pas de transfo DevOps dans les startups ou les petites équipes parce qu'elles trouvent très vite leur chemin. Après, les PME, pourquoi pas ? C'est peut-être plus facile. Moi, je sais que j'essaie de viser les PME, justement, les PME du numérique.
Ouais, tout à fait, tu as raison, ouais.
Je pense qu'elles sont plus faciles à faire évoluer que les gros mastodontes parce que je sais qu'on tous les deux, on a eu des clients en commun. J'ai d'autres gros clients, c'est très compliqué. On en parlera, je pense, une autre fois. J'ai une autre question pour toi parce que notre auditeur, il adore les petites histoires, il adore le point story time. Et du coup, est-ce que tu peux nous raconter un truc, un problème qui t'est arrivé dans ta carrière et que tu as pu justement améliorer avec le DevOps, les préceptes du DevOps? Et surtout, et ce qui est intéressant pour nous, puisque c'est un petit retour d'expérience, comment vous avez fait pour régler ce problème-là?
Chers auditeurs, sachez-le, ces émissions sont préparées. Et donc, en fait, j'avais les questions auparavant. Quand tu m'as posé cette question, j'y ai réfléchi. En fait, c'est assez compliqué pour moi parce que, quelque part, j'ai fait quasiment toute ma carrière en faisant du DevOps. Donc, si tu veux, j'ai du mal à comparer le avant-après. Tu vois, quand je faisais pas de DevOps et quand j'ai fait du DevOps. Par contre, je me souviens, en fait, quelque part, je me souviens d'un truc que je considère, moi, personnellement, comme mon plus grand succès, quelque part. Je travaillais pour La Poste, il y a prescription maintenant, c'était en 2012-13, je crois, un truc comme ça. Et je travaillais pour La Poste qui, à l'époque, était ni agile, ni DevOps, c'était vraiment la boîte à la papa. Et je travaillais pour la lettre recommandée numérique, donc en fait la version digitalisée, numérisée de la lettre recommandée. Alors on est bien d'accord, hein, normalement digital, enfin la question du digital, on est bien d'accord, moi aussi ça me fait rire. Mais après, voilà, il y a une réalité, on va dire, du métier, du business, de notre écosystème professionnel, qui fait que quand on parle de digitalisation, c'est cette transcription numérique d'une activité qui autrefois ne l'était pas. Bref. Donc, je travaille sur la lettre recommandée numérique et mon premier job, en fait, j'arrive en tant qu'architecte solution sur cette mission-là. Et mon job, en fait, c'est de faire un intérim d'été pour remplacer l'architecte solution qui s'est barré un mois en vacances. Et grosso modo, le job, c'est ils doivent passer d'une V3 à une V4, je crois, ou un truc comme ça. Donc, juste upgrade applicatif. Donc je fais les documents d'architecture, machin truc, et puis j'accompagne le projet dans cette migration. Dans cet upgrade. Excusez-moi, c'est un upgrade, hein, juste un upgrade applicatif. On est bien d'accord, hein, chers auditeurs. Et donc, le passage de V3 à V4, sans mentir, ça a pris 3 jours, donc 3 fois 8 heures, avec interruption de service, donc ça se coupe un vendredi soir, ça se rallume un lundi matin, et pendant ces 3 jours, donc 8 heures non-stop, t'as un mec qui fait du clic-bouton, clic-bouton, clic-bouton. Je connais le prénom de ce garçon, il s'appelait Christophe, et il a fait du clic-bouton pendant 3 fois 8 heures, donc 24 heures, il a bossé à faire du clic-bouton pour faire l'upgrade de cette putain d'appli V3 vers V4. Et donc moi j'ai regardé ça et évidemment pendant les 3 jours, bon, je me suis un petit peu fait chier et deux, un petit peu arraché les cheveux parce que je me suis dit c'est pas possible quoi. Et donc en fait, bah, il se trouve, alors je vous la fais un peu courte, bien que vous avez vu, j'aime bien délayer, mais je vous la fais un peu courte et je reste sur cette mission et des mois passent et en fait on prépare la next version, donc la version 5. Et là, pour le coup, je reste architecte solution, donc de la V4 jusqu'à la V5. Et donc, en fait, bah, pendant tout ce temps, on a tout revu. En fait, on a revu les équipes. Donc, en fait, on a diminué par 3 la taille des équipes. On a revu les socles sur lesquels on tournait. Donc, on tournait sur du WebSphere, du WebSphere MQ, du WebSphere Application Server. Il y avait de l'Oracle derrière. On est passé sur du RabbitMQ, du Tomcat. Alors, attention. On était sur du WebSphere Application Server, mais les développeurs qui étaient en centre de service nearshore dans un bled de région parisienne, eux, ils travaillaient pas sur du WebSphere Application Server parce qu'ils n'avaient pas les licences. Donc, ils bossaient sur du JBoss, bien évidemment. Et donc, il y avait plein de blèmes de migration de JBoss vers WebSphere. Enfin bref, que des conneries comme ça. Vraiment, tous les anti-patterns qu'on peut rencontrer traditionnellement quand on arrive sur un chantier, on va dire, pas vraiment DevOps-friendly. Et donc on a tout refait du sol au plafond et au final, quand on a migré donc avec la migration technique que ça impliquait de migrer de V4 à V5, puisqu'on avait changé complètement toute l'architecture technique, on avait refondu une partie de l'applicatif, on avait évidemment étendu les fonctionnalités, etc. Et quand on a fait la migration vers V5, la migration vers V5, ça a demandé 10 minutes, une ligne de commande passée et sans interruption de service. Et là j'ai dit, OK, mon job est fait. J'ai fait ce qu'il y avait à faire. Et évidemment, qu'est-ce qu'on a fait? Ben, on a fait du blue green, on a fait évidemment une réarchitecture autour de l'open source qui fait que plus de problèmes de licence, ce qui fait que les devs, ils faisaient du dev sur les bonnes architectures techniques, des environnements beaucoup plus volatiles, beaucoup plus agiles, pilotés évidemment en Ascode, enfin bref, la totale de ce qu'on peut faire, enfin, on va dire le DevOps by the book, quoi, quelque part. Et c'était un plaisir. Et j'ai revu, donc ça c'était en 2013, je crois, et j'ai revu lors d'une conférence le patron de la prod. Alors là, je vous ai parlé des aspects architecturaux, techniques, etc. Mais ce qu'on a fait aussi, c'est évidemment que les devs et les mecs de prod, alors les mecs de prod étaient à Dijon, les devs étaient dans le nord de la région parisienne. Donc évidemment, on les a fait se rencontrer, on les a fait bouffer ensemble. Lors des MEP, moi j'amenais carrément le petit fût de bière, vous savez, les petits fûts de bière grands comme ça, là. Grand comme ça, qu'on trouve dans les supermarchés, de façon à ce qu'on puisse picoler un petit peu, avoir une MEP un peu festive, quoi. Et bref, et donc en fait, et on a resserré considérablement ces deux équipes, de façon à ce que voilà, l'ops est resté un ops, les devs sont restés des devs, mais très clairement, ils bossaient ensemble sur l'infra Ascode, ils bossaient ensemble sur les déploiements en prod, mais aussi sur les déploiements en environnement amont. Et puis quand il y avait un jeton, eh ben on était tous sur le pont, etc., etc. Et donc en fait, bah on est reparti de là, on était super heureux de bosser ensemble, quoi. Et puis surtout, on était fiers de ce qu'on avait fait. Donc ouais, c'est vraiment pour moi un truc sur lequel mettre en place du DevOps, d'une part, ça a été une réussite, et d'autre part, ça a été un plaisir en fait.
Et alors, mon côté entrepreneur, il se pose la question, est-ce que le retour sur investissement y était et est-ce qu'ils en ont profité justement pour raccourcir les délais entre les mises en prod, et les faire plus souvent du coup?
Ouais, alors oui, d'ailleurs, excusez-moi, j'ai pas fini un truc. Je retiens ta question. Hein. J'ai pas fini un truc, c'est que donc j'ai revu le patron de la prod quelques années plus tard, genre 5-6 ans plus tard, en conférence à Marseille, et il me disait, bah ton truc, il tourne toujours comme une horloge, et on continue à bosser sur cette architecture, etc., etc. Donc ça, c'était vraiment un grand. Enfin, c'est-à-dire qu'en fait, tous les préceptes, tous les patterns DevOps qu'on avait mis en place. Bah, ils se les étaient non seulement appropriés, mais en fait, ils continuaient à les étendre, etc. Donc, c'était un espèce de proto de DevOps à la poste, et c'est quelque chose sur lequel s'est fait, enfin, s'est fait la culture DevOps de cette entreprise. Et vous savez aujourd'hui que, enfin, aujourd'hui, la poste discute beaucoup, enfin, communique beaucoup sur ses réussites DevOps. Et bah, je suis content d'y être un petit peu pour quelque chose. Concernant ta question, les déploiements plus souvent, oui, bien sûr. Bien entendu, puisque je crois que le passage de V3 à V4, ça avait pris 6 mois. Le passage de V4 à V5, très clairement, ça a pris, je pense, aussi 6 mois. Mais par contre, alors, en termes de mise en production, donc là-dessus, on n'a rien gagné. Mais par contre, il y avait la migration technique, toute la réorg des équipes, etc. Donc, en fait, on était sur un projet qui avait une ampleur complètement différente. Là où de la V3 à la V4, c'était juste, on remplace un Java par un autre Java. Hein. Enfin, donc, la durée était la même. Par contre, évidemment, les itérations sur les environnements de test, elles ont été infiniment plus nombreuses. Là, pour le coup, j'ai pas de métrique claire, mais elles ont été évidemment très nombreuses puisque, ben, voilà, on a largement itéré sur ces réarchitectures, ces refontes, les évolutions fonctionnelles, etc., etc. En termes de ROI, je vais être complètement transparent avec vous. Moi, j'ai bossé donc en tout et pour tout de V3 à V5 et quelques. J'ai bossé 30 mois pour ce projet. Le coût de ma prestation, à l'époque, je bossais chez Octo, le coût de ma prestation, ça a été 900 000 euros pour 30 mois. D'accord? On a fait un gain de 3 millions d'euros sur les licences WebSphere MQ qu'on a bazardé. Et sans compter, évidemment, alors là, pour le coup, ça ne peut pas vraiment se calculer parce que, y avait énormément d'équipes internes sans refacturation interne. Mais on est passé je vais dire, une quarantaine d'acteurs sur le projet, à une équipe qui était resserrée à une douzaine d'acteurs. Et donc, on faisait le même job à 12 qu'auparavant, on le faisait à 40 avec toutes les réunions, etc., que ça coûtait. Donc, en fait, on a gagné en termes d'agilité. On n'a pas forcément gagné énormément en termes de vélocité. Et de toute façon, il restait quand même tout l'aspect métier. Encore une fois, le projet n'était pas agile, hein. Donc, en fait, la descente des expressions de besoins métiers vers les développeurs, elle se faisait encore en cycle en V, hein. Tout ça se faisait en cycle en V. Donc, on a fait du DevOps sur du cycle en V quand même. Il faut voir un peu. Mais donc, on n'a pas forcément gagné en vélocité stricte sur le projet en termes de time to market. Par contre, très clairement, en termes de vélocité opérationnelle, là, pour le coup, on a gagné énormément. Oui.
C'est marrant, alors tu dis ça, tu fais bien parce que moi quand j'arrive dans une boîte qui veut passer au DevOps, je leur demande déjà si elle a fait une transition agile. Et moi je refuse de mettre les pieds typiquement sur une boîte qui a jamais fait de transition agile parce que je veux pas gérer le cycle en V et le DevOps. Toi ben, peut-être parce que tu as plus de gens avec toi, moi je suis un indépendant tout seul maintenant, et du coup j'ai pas vraiment envie de mettre les doigts là-dedans.
Ouais, bah ça a été compliqué hein, culturellement. En fait, tu sais quoi? C'est marrant parce que je me souviens très précisément du moment où j'ai réussi à tout déverrouiller. C'est-à-dire que dans un cycle en V, le vrai problème du cycle en V, c'est que la responsabilité est ciblée contractuellement par le passage d'une équipe à l'autre à travers des tickets. Quand on fait de l'utile mal digéré, c'est comme ça que ça se passe. Il y a une équipe, elle fait des tickets à une deuxième équipe. Et donc, en fait, ce ticket matérialise le moment où on passe la responsabilité à l'équipe d'après. Quand on commence à raccourcir tout ça et à faire travailler les gens beaucoup plus en collaboration, qu'ils touchent au même code, etc., etc., bah, ces questions de tickets, etc., même si elles existent encore pour des questions de traçabilité, de la communication et de conservation de l'historique, quelque part, et puis parce que c'est intéressant d'avoir une to-do, simplement, ne serait-ce que pour soi, personnellement, moi, j'aime bien bosser avec du Jira, hein, ou du Trello, ou ce genre de truc. Ou du GitHub issue, etc. Parce que au moins le matin, quand j'ai un peu la tête dans le cul, bah, tout de suite ça me recadre dans ce que j'ai à faire. Mais en tout cas, bon bref, le RACI est très clairement matérialisé. Les outils viennent matérialiser ce carcan un peu ITIL, cycle en V, etc. Et je me souviens très bien le moment où j'ai réussi à déverrouiller tout ça, c'est que j'étais avec le patron de la prod, j'étais avec le team lead de la dev. Le team lead était plutôt favorable à faire du DevOps, évidemment comme souvent les devs, hein. Le patron de prod beaucoup moins, comme souvent les patrons de prod. Et à un moment donné, en fait, donc on discute un petit peu de la nouvelle orga, de comment bosser ensemble et tout. Et puis le mec, vraiment, il est mais, hyper, hyper réticent. Et puis à un moment donné, je lui dis, mais qu'est-ce qui te fait peur, en fait? Et il me dit, bah ouais, mais je veux pas que la responsabilité. Et je lui dis, ah, mais.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
C'est ça, en fait, ton problème. Ton problème, c'est le raci. Eh ben, écoute, tu sais quoi, on va le refaire, la refaire, la matrice raci, et en fait, on va me mettre partout.
Justement, avant que tu continues, parce qu'on s'adresse aussi à des néophytes, est-ce que tu peux expliquer ce que c'est le raci? Moi, je sais, mais pour nos auditeurs.
Oui, alors le raci, c'est une façon, c'est un modèle qui permet d'établir qui est responsable de quoi dans un plan d'action. Donc en fait, quand on a un plan, par exemple, de déploiement, on va dire telle personne, elle est soit responsable, soit partie prenante, soit contributrice, soit informée, c'est-à-dire mise au courant d'eux, parce que ça peut être intéressant pour elle d'être informée. Donc typiquement, quand on déploie, je sais pas moi, une base de données avec un applicatif au-dessus, très clairement, quand l'applicatif va être déployé, une des personnes qu'on va informer, c'est le DBA. Mais par contre, il ne va pas être dans l'action d'upgrader cette application. Par contre, au niveau de l'upgrade du modèle de base de données, par exemple, je vous fais ça façon manuelle à l'ancienne, hein, on est bien d'accord. Par contre, donc dans la mise à jour de la base de données, l'administrateur va être acteur, donc dans le RACI, donc il va être acteur. Mais par contre, quelqu'un qui va être mis en contribution, par exemple, ça va être le développeur parce que, par exemple, dans son application, il doit changer la chaîne de config de connexion à la base de données, parce qu'on a changé de base de données, par exemple. Donc voilà, c'est une façon de modéliser comme ça dans un document qui est acteur, qui est contributeur, qui est responsable, qui est acteur, qui est contributeur et qui est informé des différentes actions. Ça vient évidemment de l'anglais, donc les R et le A s'inversent entre l'anglais et le français, mais globalement on s'y retrouve. Hein.
Je vous mets un lien en description, vous irez voir ce que c'est le raci.
Yes. Et donc en fait, de mon point de vue, souvent quand on parle de DevOps, malheureusement dans les entreprises on parle d'abord d'automatisation et après on parle de culture. Et très souvent, la question du raci passe un peu sous le tapis. Or, en réalité, de mon point de vue, ma sensibilité personnelle sur les choses, c'est que le raci, c'est un petit peu la pierre de rosette du DevOps. C'est-à-dire que si on arrive à péter le raci, le DevOps, c'est gagné. Parce qu'en fait, globalement, se retrouver sur des technos, c'est pas très compliqué. Enfin, après, il y a toujours des biais culturels, des biais personnels. Je choisis telle techno, ah ouais, mais non, je préfère celle-ci, ou ce genre de truc. Mais globalement, ça... ce sont des guerres d'individus, mais ce sont pas des guerres de système. Par contre, si on n'arrive pas à péter le raci, ça reste un sujet de transformation du système. Et là, pour le coup, en fait, si on n'arrive pas à faire ça, ça va être un échec. Globalement, ça va être pas, peut-être pas un échec, mais en tout cas un succès largement incomplet, quoi. C'est pour ça que c'est important de le péter. Et donc, j'ai répondu à ta question.
Ouais. Et donc, avec ton directeur là.
Et donc, en fait, ouais, avec mon directeur, voilà, pour reprendre mon histoire, donc, à un moment donné, donc, je lui demande de quoi il a peur. Grosso modo, ce qu'il me dit, c'est qu'il n'a pas envie de se faire taper sur les doigts et qu'il soit pris pour responsable de cette espèce de prototype, de cette espèce de monstre d'hydre à plusieurs têtes, là, qu'on est en train de monter, qui s'appelle le DevOps. Et je lui dis, mais écoute, c'est pas un problème. Moi, je suis consultant, donc, je prends la responsabilité d'être le fusible. Donc, en fait, on va le changer, le raci. Je suis architecte solution, donc, quelque part, c'est un peu à moi de le faire. Donc, on va le changer, ce raci, et je vais me mettre partout en tant que responsable. Et donc, à partir de là, globalement, s'il y a une faute qui arrive, c'est vers moi qu'on va se retourner. Et à partir du moment où on a changé... Alors, évidemment, là, pour le coup, c'est passé, mais je sais même pas comment c'est passé, tellement c'était énorme. Mais, en fait, on a réussi à me faire ça. Et à partir de ce moment-là, en fait, la collaboration, elle était hyper tranquille, quoi. Tout le monde était détendu du slip. Parce que globalement, en fait, cette question de la responsabilité, noir sur blanc, elle avait été levée, quoi. Après, évidemment, ça lève pas toutes les difficultés au quotidien, hein, mais c'était un point. Enfin, à partir du moment où ça c'est devenu officiel, ça n'a plus été un sujet.
Eh ben, merci pour cette histoire, et on va pouvoir lancer notre discussion sur justement le poste d'administrateur système. Comme tu le sais, récemment, il y a le poste d'administrateur système DevOps qui a été créé C'est paru au journal officiel. Et justement, j'en ai parlé dans une de mes vidéos et je crois que toi et moi, on n'a pas le même avis là-dessus. Déjà, est-ce que tu peux me dire ce que tu penses de ce poste et après, je vais rappeler mon avis un petit peu là-dessus.
Déjà, je pense que c'est bien. Enfin, je pense que c'est bien à un moment donné. Alors, je connaissais pas les. Je suis pas un grand spécialiste de des aspects administratifs et des aspects, on va dire, officiels. Vous avez compris que bon, à la fois par mon parcours et par mon état d'esprit, en fait, je suis quelqu'un d'assez, qui think out of the box, quoi. Hein. Je suis quelqu'un d'assez peu, rigoureux et rigide. Donc, je ne sais pas comment c'était auparavant, mais en tout cas, la première chose que j'ai pris connaissance de cette information, donc de la publication de ce poste au journal officiel, je pense que je l'ai appris à travers un de tes tweets. Et donc, en fait, quand je l'ai vu, la première chose que ça m'a évoqué, c'est que je me suis amusé parce que je me suis dit, à mon avis, Christophe, là, ça doit le chauffer. Ça, c'est le premier truc que je me suis dit. Le deuxième truc que je me suis dit, c'est, mais quand même, c'est bien, à un moment donné, que le terme DevOps entre au journal officiel. Donc ça, c'est le premier truc que je me suis dit. Et après, je suis allé lire un petit peu, et globalement, en fait, ce que j'ai lu est le nœud de ce dont on va débattre là tout de suite. C'est-à-dire, est-ce qu'il y a un écart entre ce que notre business appelle le DevOps, enfin notre business, c'est-à-dire les entreprises françaises, donc qui sont plutôt des grosses entreprises, plutôt du CAC 40, plutôt des entreprises institutionnelles un peu à la papa, appellent le DevOps, et de ce que nous, on appelle le DevOps. Et effectivement, globalement, en fait, là où tu dis on n'est pas d'accord, je pense que fondamentalement, on est d'accord. On a la même sensibilité.
Je suis même pas sûr qu'on soit pas d'accord. Parce que...
Je pense qu'on est d'accord, mais je pense que il y a un écart factuel, si tu veux, entre notre sensibilité et notre culture DevOps. Et ce que le commun des mortels, enfin ce que les DSI lisent dans le 01 net, quoi, en fait.
Ouais.
Et c'est ça le truc.
Alors je sais pas si t'as vu ma vidéo justement sur le sujet.
Ouais, je l'ai vu.
Donc, tu as vu avec. Alors je vais rappeler pour ceux qui l'ont pas vu. Donc j'ai fait une trouvaille du vendredi. Donc vous pouvez aller la voir. Il y a la fiche d'information qui s'affiche si vous êtes sur YouTube. Pour moi, en fait. Alors c'est un titre, c'est pas un poste, c'est vrai. C'est un titre. Donc ça veut dire que c'est un titre officiel. Donc c'est un diplôme pour le coup. On passe un diplôme et après dérive des métiers. Donc déjà, c'est pas un métier d'ingénieur DevOps parce que le titre, c'est bien administrateur système sur lequel, pour moi, on a accolé un adjectif qui est DevOps. Et pour moi, c'est la bonne manière de qualifier les titres, c'est de prendre un vrai titre qui existait et de lui coller l'adjectif pour dire, bah voilà, on va faire ce métier-là, ce titre-là, on va lui accoler la méthodologie, le mouvement DevOps. Pour moi, c'est la bonne chose. Ah bon, après, dans le titre, il y a des petits trucs qui me dérangeaient, mais là où tu avais réagi sur Twitter, il y a aussi le truc, c'est l'absence de culture sur le titre. C'est vrai que la culture, elle n'est pas mentionnée, même si, en filigrane, quand on lit complètement le titre, il y a les aspects collaboration et autres, mais le terme culture n'y est pas.
Ouais, alors en fait, je vais te dire, dans le titre, administrateur système DevOps, finalement, ce qui me choque le plus, c'est système. Parce que en vrai, aujourd'hui, et surtout quand on commence à faire du cloud, enfin parce que dans l'intitulé du poste d'administrateur système DevOps, il y a quand même tout un sujet cloud, infra as code. Et en fait, quand on parle d'infra as code, c'est grosso modo déploiement et provisioning as code. Donc c'est pas nécessairement que de l'infrastructure, mais ça peut être aussi des services et en particulier des services managés, etc. Et donc, en fait, la question de l'administrateur système, là, pour le coup, me pose problème. Finalement, ce que décrit ce poste, globalement, pour moi, c'est ce qu'on appelle SRE, entre nous, c'est-à-dire quelqu'un qui a une responsabilité de run et qui a dans ses activités à la fois de run et à la fois de build, puisqu'il a quand même des activités de build très clairement identifiées, qui a recours aux bonnes pratiques et aux technologies qu'on appelle traditionnellement DevOps dans notre industrie IT. Et donc, en fait, ce qui me choque le plus, finalement, quelque part, c'est plus le côté administrateur système qui, pour moi, en fait, est un peu... qui est vachement, en fait, pour moi, ce qui me pose problème dans la façon dont c'est accolé, c'est que pour moi, l'administrateur système ne recouvre pas nécessairement la réalité du run. C'est-à-dire qu'en fait, dans mon expérience personnelle, les administrateurs système sont quand même des gens qui sont en N3, voire en N4, en termes de réactivité sur incident. Or, quand on parle d'un SRE ou d'un administrateur système DevOps, c'est quand même quelqu'un qui est assez immédiatement confronté à l'incident. Parce que globalement, il a une vision beaucoup moins pilotée et beaucoup moins technologie centrique que ne peut l'être l'administrateur système ou le DBA. C'est-à-dire que l'administrateur système, on l'appelle globalement quand on sait que c'est l'hyperviseur qui est down. On l'appelle assez peu avant. Il est pas réveillé parce que l'applicatif est down. Alors qu'un SRE ou un admin DevOps, on va dire, ou un DevOps Ops, un DevOps de run, va être beaucoup plus en première ligne en termes de prise en compte d'un incident, va être beaucoup plus en première ligne et va être beaucoup plus dans une démarche à large spectre. Donc le côté administrateur, en fait, alors, ce qui dans l'administrateur système.
Sinon tu vas faire un long monologue alors qu'on est là pour discuter.
Non, vas-y, bien sûr.
Moi, dans ma carrière, j'ai eu une longue période où j'étais exploitant, donc gestionnaire d'applications. On peut aussi dire ça. Alors comment on appelle ça? Bon, je faisais de la prod, j'installais les applications sur des systèmes Unix et Linux et je gérais pas le système. Mais j'avais besoin de plein de connaissances de système. Et du coup, mon métier finalement se rapprochait de l'administrateur système sans mettre à jour les systèmes et autres. Par contre, j'utilisais le système et je faisais du déploiement, etc. Et pour moi, et en plus, n'oublions pas ce titre, c'est un titre Bac plus 3, hein, c'est pas un titre d'ingénieur. Je suis assez d'accord avec toi sur le côté cloud. Pour moi, il a rien à faire là. Et d'ailleurs, il devrait même pas être là. Et on devrait se focaliser sur l'administration système, les connaissances du système et le provisioning et la configuration, la gestion de la configuration.
Non, mais tu vois, par exemple, tu faisais. Alors, je te rejoins. Hein. C'est-à-dire que toi, le poste que tu avais, c'était un poste de run applicatif, quoi, en fait, ou d'ops applicatif.
Exactement.
Et donc, mais pourquoi système? Tu devais avoir aussi des compétences réseau, tu devais avoir aussi des compétences DB,
mais moi,
éventuellement des compétences messagerie.
Moi quand même, parce que vraiment, on avait vraiment des compétences système très fortes. Moins de compétences réseau, d'ailleurs, je suis très mauvais en réseau, hein. C'est là-dessus. J'avais aussi des compétences DB, mais en même temps, aujourd'hui, on demande à l'administrateur système d'installer les bases de données, on demande un peu tout à l'administrateur système ou à l'ingénieur système. Là, c'est un autre problème pour moi, mais c'est parce que j'ai aussi travaillé dans beaucoup des startups, donc des petites équipes. Mm-hmm. Quand j'ai travaillé chez Casino, en effet, il y avait des gens pour tout. Donc, c'était assez
simple. Bah là, tu vois, moi, je bosse. Ça fait 3-4 ans que je bosse en secteur bancaire, finance, santé, mutuelle, ce genre de trucs, assurance. Très clairement, tu vois, les DBA et les ingés réseau et les admin systèmes, c'est trois populations différentes qui ont vraiment des réalités assez.
Ouais, mais là, ce que tu décris pour moi, c'est l'administrateur système à la papa, alors que pour moi, ce titre, c'est le nouvel administrateur système qui rentre dans le mouvement DevOps, il connaît son système Linux, il sait l'utiliser, il sait installer des choses et il sait surtout configurer et faire de la gestion de configuration.
Non, mais alors, je suis d'accord avec toi, mais est-ce que ça veut dire que c'est pas ce mec-là qui va faire de l'install Kafka, par exemple ? Et évidemment que c'est lui qui va faire l'install Kafka.
Oui.
Donc, en fait, il n'est pas administrateur système, en fait.
Bah. En même temps, il n'y a pas d'autre, tu sais, on part de loin, hein, c'est l'administrateur système et réseau à l'origine, hein. Il n'y a pas d'autre titre, a priori, il y a ça, parce qu'il n'y a pas d'administrateur Kafka, encore que Kafka, c'est un middleware. Mais c'est quand même les administrateurs système qui font le middleware. Parce qu'il y a les connaissances techniques et le métier que tu fais derrière. C'est ça que je veux dire, c'est qu'il y a le titre et le métier.
En fait, pour moi, je comprends ce qu'ils veulent mettre derrière ça. De mon point de vue, les mots qui sont employés ne sont pas les bons. Parce que globalement, si on se tourne un petit peu vers la culture, on va dire DevOps, un peu plus anglo-saxonne, on va dire, en tout cas, un peu plus sensible à notre communauté, ça se rapproche d'un SRE. Et un SRE, c'est quoi? C'est un acteur technique qui a un pied dans le run et qui a un pied dans le build. C'est ça. Et c'est un acteur technique qui n'est pas un développeur. C'est surtout ça la différence. C'est-à-dire que lui, en fait, il n'est pas là pour développer le fonctionnel. Il n'est pas là pour développer le métier. Il est là pour développer, je veux dire, les fonctions en rapport avec les exigences du métier. Donc, il est là essentiellement pour la stack technique. Mais pour moi, administrateur et système sont... Alors, administrateur, système, selon les réalités du terrain, ça peut être du run, comme ça peut être du build, mais de façon assez exclusive. Or là, c'est plutôt un rôle qui englobe les deux, et c'est plutôt bien que ça englobe les deux. Et à la fois, le côté système, moi, je suis pas super fan. Après, je comprends ce qu'ils veulent mettre derrière, et pourquoi pas appeler ça administrateur système. En fait, voilà, on discute, hein, évidemment, et ça fait de l'écoute pour nos auditeurs. Enfin, je veux dire, ça entretient notre discours auprès des auditeurs. Mais en réalité, en fait, moi, c'est un peu ça l'essentiel de notre débat, en fait. Hein. C'est que moi, quelque part, que ça s'appelle administrateur système ou SRE ou Ops ou WebOps ou whatever Ops, en fait, je m'en fous. Ce qui est important, c'est qu'on soit aligné sur ce que ça veut dire et surtout sur la réalité que ça recouvre au quotidien. Et c'est ça qui, de mon point de vue, est le plus important.
Alors justement, je vais te poser une question. Est-ce que tu donnes des cours ?
Ouais, bien sûr.
Tu as pu remarquer, parce que moi aussi j'en donne, tu as pu remarquer quand même que pour inclure le DevOps dans les cours, c'est pas facile, notamment à ces niveaux-là, parce qu'il y a des programmes et on peut pas forcément sortir des programmes. Et donc moi, quand je propose mes cours DevOps, sensibilisation DevOps en BTS, ils me disent « Ah ben non, c'est pas dans le programme ». Et donc moi, je vois le fait de ce titre arriver une bonne chose, parce que dans les programmes, on va pouvoir mettre ce genre de choses. On va pouvoir mettre la culture, on va pouvoir mettre l'automatisation, on va pouvoir mettre les autres trucs. Et je pense que c'est une bonne première marche. Elle est pas parfaite, hein, surtout quand on voit comment elle est rédigée, mais voilà quoi. Après, on va pouvoir aller de plus en plus vers la mise en place de tout un tas de titres DevOps partout, enfin de tout un tas de titres qui vont dans le mouvement DevOps et pouvoir sensibiliser tout un tas de populations.
Ouais, tout à fait.
J'aimerais bien qu'on ait des titres développeur DevOps, tu vois, typiquement.
Mais en fait, tu vois, en ce moment, je suis chez un client. Excusez-moi, il y a une petite mouche. En ce moment, je suis chez un client et ils ont voulu, lors de ma mission de transfo DevOps, donc je suis arrivé pour faire le cadrage de cette transfo. Et donc, il y a certains de mes interlocuteurs qui sont du C-level, hein, m'ont demandé de ne pas parler de DevOps, mais de DevSecOps. Alors moi, en mon fort intérieur, je me suis dit, bah ouais, et DevFinOps, et donc la partie fin, on s'en occupe pas, et la partie data, on s'en occupe pas, et la partie ML, on s'en occupe pas. Et en fait, et pourquoi rajouter sec ? Je veux dire, a priori, un ops, ça fait déjà partie de ses attributions de base. Enfin, je veux dire, l'administrateur système, c'est quand même une de ses valeurs ajoutées de savoir sécuriser et durcir son système. C'est d'ailleurs un des grands sujets qui présente tellement de contraintes et de frictions que les devs, ils commencent à taper sur l'ops. Enfin, globalement, en fait, c'est bien parce que il y a des sujets contraignants comme la sécurité, qui est un sujet à la base un peu contraignant, enfin, perçu comme contraignant par les équipes de devs, que le DevOps a été inventé. C'est bien pour lisser ces frictions, enfin, pour huiler ces frictions. Donc, en fait, rajouter sec dans le terme, pour moi, c'est, enfin, quelque part, je trouve ça grotesque. Mais en même temps, enfin, franchement, dans mon fort intérieur, je me dis, mais DevOps, mais en fait, le sec, il est déjà dans l'ops, mec.
On est parfaitement d'accord là-dessus. Il faut que je fasse un épisode de podcast là-dessus.
Mais en fait, une fois que mon poil s'est hérissé intérieurement et que mon petit cœur s'est un petit peu meurtri intérieurement, je me dis, mais pourquoi pas? En fait, l'important, c'est finalement pas le terme. Ce qu'il faut, c'est qu'on soit aligné dessus. Et à la limite, qu'on enfonce le clou une deuxième fois en rajoutant sec, mais pourquoi pas, quoi? Après, je trouve ça grotesque parce que à la fin, on finit avec un truc qui s'appelle Dev Sec Fin ML Data Ops. Mais pourquoi pas en fait ?
T'as oublié le no au milieu.
Ah, alors non, le no, on pourra en parler si tu veux à un moment donné.
Une autre fois. Mais du coup, parce que moi, il y a un truc qui m'embête un petit peu avec ça, et puis on passera à la dernière question, je pense après. C'est finalement. Les gens que tu leur dis DevSecOps, s'ils veulent s'acculturer et aller se renseigner, ils vont pas tomber finalement sur les articles ou les conférences DevOps, et ils risquent de passer sur tout un pan qui est pour moi fondateur du mouvement quand même.
Oui, mais à contrario, alors je suis d'accord avec toi, hein. Je suis complètement d'accord avec toi, mais à contrario, si tu colles juste DevOps, bah c'est vrai que tu vas tomber sur énormément de sujets, d'enjeux, de déploiement, et beaucoup moins sur des sujets de d'analyse statique de sécurité sur des images Docker, par exemple, ou ce genre de trucs. Alors, depuis l'arrivée des conteneurs, c'est quand même beaucoup moins vrai, c'est-à-dire que en fait, la partie sécurité, comme le conteneur est un package, on va dire, très standard, qui a permis justement de faciliter l'intégration d'analyse statique de sécurité dans la chaîne CI, etc. Ça c'est rentré beaucoup plus dans les mœurs qu'auparavant. Mais enfin, moi, je me souviens du moment où on faisait de l'infra as code sur du cloud public avant les conteneurs, et où la sécurité, c'était un enjeu qui était assez peu traité, même dans les conférences DevOps, tu vois. Alors, c'était traité, enfin, on l'avait dans notre scope radar et on faisait au mieux pour l'intégrer, mais disons que c'était quelque chose qui n'avait pas le même poids que le déploiement, par exemple, dans ce qu'on pouvait trouver comme littérature dans la communauté. Donc, quelque part, si tu veux, c'est vrai que le DevOps, quand tu en parles et quand tu te penches sur le contenu qui existe sur Internet, par exemple, c'est quand même très orienté déploiement et monitoring. Si on devait pondérer en fait les différents éléments du DevOps, enfin les différentes activités qu'on peut trouver dans le DevOps, si on devait les pondérer par rapport à la littérature qu'on peut trouver ou à la surface d'acculturation qu'on peut avoir par rapport à la communauté, c'est clair que ce qui vient d'abord, c'est l'automatisation, ce qui vient ensuite, c'est le déploiement, ce qui vient ensuite, c'est le monitoring, et ce qui vient ensuite, c'est la sécu. Et si tu veux, ça arrive effectivement avec ces poids-là. Et donc, quelque part, remettre le sec dans le terme, bah quelque part, ouais, ça réenfonce le clou et ça fait remonter un petit peu le sec, pourquoi pas.
Ouais, c'est bon, tu m'as remonté comme un coucou, je pense que je vais enregistrer mon épisode de podcast sur le DevSecOps, je te le ferai écouter, tu verras mon point de vue là-dessus, je vais charcler.
Mais pourquoi, discutons-en, hein, je veux dire.
Non, parce que on est déjà à 55 minutes et qu'il va falloir arrêter ce podcast, okay. Si tu veux, on en rediscutera plus tard. Ça va être ma dernière question. Est-ce que tu as un livre, un article ou même une conférence à conseiller à notre auditeur?
Alors moi, non, pas vraiment. Ce que je vais faire plutôt, c'est vous conseiller des podcasts. Parce que les podcasts, c'est la vie, il y a bon, mangez-en. J'aime beaucoup ce format pour plusieurs raisons. D'abord parce que la plupart du temps, ce sont vraiment des passionnés qui font ça. Parce que c'est pas encore dans les gros vecteurs de monétisation, etc. Donc c'est souvent du podcast amateur et c'est fait par des passionnés et souvent ces passionnés sont extrêmement bons. Dans les podcasts que je peux vous conseiller, il y en a quand même quelques-uns. Il y a le tien, hein, évidemment. Il y a celui aussi de WeScale qui est fait par l'ami Thomas. Il y a l'excellent podcast de Clever Cloud. Alors là, pour le coup, c'est pas DevOps, mais c'est j'aime beaucoup cette approche. Alors je sais que Clever est une boîte et des acteurs qui sont assez clivants, mais ce que j'aime beaucoup, c'est qu'ils ont énormément une approche d'ingénieur. Et là, pour le coup, en fait, ça nous remet un petit peu dans la réalité. En fait, moi qui suis consultant, tout comme toi d'ailleurs. Parfois, on a un peu l'impression de faire des claquettes. Et là, pour le coup, en fait, eux, ils ont une approche d'ingénieur chez un éditeur. Et là, pour le coup, en fait, j'aime beaucoup cette approche. Je veux dire, ils ont des épisodes sur les évolutions kernel qui sont absolument fabuleux. Et c'est vraiment une grosse acculturation pour moi. Et puis, il y en a un dernier que j'aime bien, c'est ElectroMonkey. Alors là, pour le coup, je connais l'éditeur, mais uniquement de réputation. Et je trouve que il a un podcast qui est de grande qualité aussi. Un dernier podcast pour la route, et là c'est plus pour le fun, pour les passionnés, c'est la chronique des composants, qui est un sous-podcast du podcast Tech Café, où on parle énormément d'intelligence artificielle, d'informatique quantique et de cartes graphiques et de processeurs. Et là pour le coup c'est pareil, en fait on est vraiment dans le silicium. Pur de dur, et c'est très sympa à écouter. Voilà.
Eh ben écoute, merci. Je connaissais les trois premiers podcasts. Pour le coup, nos auditeurs connaissent Thomas puisque c'est Damir sur Radio DevOps.
Bah oui, bien sûr.
Et je ne connaissais pas Chronique des composants alors que j'écoute Tech Café. C'est quand même fou. Ben je vais aller écouter
ah
ça.
Ah ouais, mais il faut écouter un Guillaume Poggiaspala. Alors je sais pas si tu as lu son bouquin sur les machines de jeu.
Non.
Ils en parlent à chaque fin de podcast. Bah, je l'ai lu ce bouquin où ils expliquent un petit peu les enjeux des consoles 8 bits et comment elles étaient programmées et quelles étaient les contraintes techniques et tout. C'est complètement oufissime. Enfin, vraiment, ça. C'est. Enfin, moi, j'aime beaucoup ce podcast et son auteur.
Il faut que j'aille écouter ça parce que j'ai commencé avec les consoles 8 bits. Enfin, pas vraiment, mais j'ai vraiment pris la passion du jeu vidéo à ce moment-là. Bon, elle m'a quitté depuis, mais quand j'étais ado, c'était ça. Eh ben écoute, merci. Je vais mettre tous les liens en description. Je vais mettre aussi le lien de ton LinkedIn, sauf si tu veux pas.
Non, ben, tu peux mettre mon lien LinkedIn, c'est pas ce qu'il y a de plus intéressant.
Mais... Ben écoute, je mettrai le lien que tu veux, en tout cas dans l'épisode. Et je vais. Tu parlais justement des podcasts et du fait amateur. Je vais en profiter pour rappeler. Vous pouvez soutenir ce podcast en faisant un petit don si vous vous en sentez l'âme charitable ou s'il vous a plu sur Liberapay. Le lien est aussi en description. Et je vais te laisser le mot de la fin avant la clôture.
Bah, à la prochaine fois, surtout. Donc, ce n'est pas un mot de la fin, en fait, c'est un mot pour la prochaine fois. Non, bah, écoutez, j'espère que ça vous a plu.
Oui, on a prévu d'enregistrer d'autres épisodes, donc si vous avez apprécié celui-là, abonnez-vous et vous aurez les autres.
Merci d'avoir écouté Radio DevOps. N'oublie pas de noter l'épisode. Plus la note sera élevée et plus il sera mis en avant dans les applications. Tu peux aussi le partager, ça nous aidera à le diffuser et à rendre le mouvement plus visible. Si tu as envie de discuter du mouvement, alors rejoins-nous dans la communauté des Compagnons du DevOps. À bientôt! La balado-diffusion des Compagnons du DevOps est produite par l'Hydra.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.